18-20.
C'était il y a deux semaines, le 21 février, les professionnels du secteur de l'aide aux personnes âgées ont exhorté le gouvernement à, je cite, « tenir ses promesses de réforme et à mettre en place des mesures concrètes dès 2019 pour améliorer leur quotidien et celui de leurs patients ». Les syndicats se sont réunis devant l'Élysée pour déposer les milliers de pétitions qu'ils ont recueillies dans le cadre de la concertation sur le grand âge et l'autonomie. Alors que lit-on dans ces pétitions ? Qu'il faut des moyens supplémentaires pour que les professionnels puissent mieux accompagner les personnes âgées. On demande également une baisse des coûts d'hébergement et de soins payés par les familles. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a accordé en mai 2018 une enveloppe de 360 millions d'euros supplémentaires de 2019 à 2021 pour recruter du personnel soignant pour les EHPAD, établissements d'hébergement pour les personnes âgées. Alors sur le fonctionnement de ces établissements, on en compte près de 7000 en France, ce qui représente 600 000 places d'hébergement. On attend ce soir vos questions et vos témoignages.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Et pour vous répondre, deux invités, Jean Arcelin, bonsoir.
Bonsoir.
Jean Arcelin, vous êtes ancien directeur d'EHPAD et vous racontez votre expérience pendant près de 3 ans dans le sud de la France avant de renoncer à diriger cette EHPAD. Et le titre de votre livre chez XO Documents, c'est « Tu verras, maman ». Tu seras bien. Et puis Frédéric Pommier est avec nous. Frédéric Pommier, c'est bien sûr la revue de presse, le week-end sur France Inter, dans le 6-9 de Patricia Martin et Éric Delvaux. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Pierre.
Frédéric, vous avez publié aux éditions Équateur Suzanne. Suzanne, c'est votre grand-mère. Elle a 96 ans. Elle a vécu la maltraitance en EHPAD. Et votre livre, qui est bouleversant parce que vous racontez la vie de Suzanne et aussi, bien sûr, ce qu'elle a vécu dans cette EHPAD. Votre livre, il a libéré la parole. Ce livre a permis à de nombreuses personnes qui ont vécu de mauvaises expériences de parler, de dire aussi ce qui ne va pas dans ces établissements. Frédéric, c'est cela ?
Oui. Ben en tout cas, à partir du moment où moi j'ai raconté cette histoire-là sur l'antenne de France Inter un matin, vendredi matin de décembre 2017, moi j'ai reçu beaucoup de témoignages. Donc le fait de parler, en effet, ça invite les autres à le faire également. Et alors que je pensais raconter moi une histoire singulière, je me suis rendu compte que ce que je racontais sur ce qu'avait pu voir ou subir ma grand-mère était quelque chose d'assez commun. Et qu'en tout cas des milliers et peut-être des dizaines de milliers de familles pouvaient connaître une situation assez proche.
Voilà, la vie de votre grand-mère, c'est un plaisir de la découvrir dans ce livre. Mais il y a aussi, et vous le décrivez, des scènes, moi je dirais, insoutenables.
Alors, racontées. Moi je voulais pas faire un livre sur l'EHPAD.
Non, bien
c'est
sûr.
Vrai que c'est l'histoire de Suzanne, de 1922 à 2018. Et à l'intérieur, j'intercale quelques chapitres pour montrer à quel point on oublie ce qu'ont été les personnes, on oublie qu'elles ont eu une vie riche parfois. Et l'arrivée dans un établissement comme ça, ça peut être un vrai choc aussi pour la personne.
Et Jean Arcelin, je tiens à préciser que dans votre livre, il est écrit, et c'est un chiffre, et ce sont des chiffres intéressants qui montrent que les EHPAD, ces établissements, ça nous concerne tous. Vous dites qu'il y a 1 400 000 personnes en France en situation de dépendance, mais que nous serons 5 millions dans cette situation en 2060.
Oui, nous serons 5 millions quand nous aurons 90 ans, ce qui est l'âge moyen des résidents en maison de retraite.
On va aller au standard. Avec premier appel, c'est Dominique qui est avec nous. Dominique se trouve à Octeville-sur-Mer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous vouliez intervenir, témoigner, poser une question, c'est le moment.
Oui, alors je voulais témoigner par rapport au financement dans un premier temps. C'est sûr que la liste serait longue, sinon je pourrais pas dire tout. Mais par rapport au financement, parce que mes parents, mon père est rentré en EHPAD l'an dernier. Ma mère est heureusement toujours là, mais elle vit donc dans son appartement. Mon père était ouvrier, donc il a une pension d'ouvrier. Et c'est avec sa pension d'ouvrier qu'il doit financer le loyer pour ma mère et sa vie au quotidien, et le financement de l'EHPAD de 2200 euros par mois. Alors, on trouve que c'est très lourd, donc nous sommes, bien sûr, on est trois enfants dont nous devons les aider, mais si ma mère devait entrer en EHPAD, je ne sais pas comment on pourrait faire. Et nous avons appris que le montant de l'EHPAD peut être déclaré sur la feuille d'impôt, avec la déclaration des revenus. Mais comme ils ne sont pas imposables, de toute façon, ils n'auront pas de crédit d'impôt. Donc ça paraît un peu paradoxal. parce que les gens qui payent des impôts, en fait, ont un crédit d'impôt. Eux n'en payent pas, ne sont pas imposables et donc n'auront pas de crédit d'impôt.
Alors, merci Dominique d'avoir témoigné sur ce problème du paiement des EHPAD, Jean Arcelin.
La réponse à cette auditrice, c'est de faire une demande d'aide sociale. Les personnes qui ne peuvent pas payer un hébergement commercial, alors soit on a une place en hébergement public, si on n'a pas de place en hébergement public, on fait une demande d'aide sociale, donc la situation financière est étudiée et l'État prend en charge la quasi-totalité de l'hébergement, sous réserve que l'EHPAD commercial est une habilitation à l'aide sociale. Et il y a peu de place à l'aide sociale dans les EHPAD commerciaux, mais il y en a.
Frédéric Pommier, un mot sur ce problème du paiement des EHPAD ?
Ben, on peut dire que ça peut coûter très très cher.
Oui, effectivement, le prix moyen c'est 1900 euros, mais ça peut aller jusqu'à 4000, 5000 euros.
6000, 7000, 8000, 9000, 10000 parfois. Là, je parle d'établissements privés à but lucratif. En effet, ça peut être très très cher. Et c'est pas forcément le prix qui peut assurer que c'est mieux qu'ailleurs. Voilà, alors plus on met cher, plus a priori on a une chambre grande et un joli papier au mur, éventuellement une jolie vue, mais c'est pas forcément dans ces endroits-là que ça se passe forcément mieux.
Et dans votre livre, Jean Arcelin, à la fin de cet ouvrage, vous donnez des conseils pour les gens qui seraient à la recherche d'un EHPAD et vous dites qu'il faut pouvoir éventuellement négocier les tarifs.
Oui, oui. Oui, je fais exprès, je mets les pieds dans le plat, parce que j'ai découvert que les EHPAD commerciaux sont un vrai business, et donc puisqu'on est dans le business, ben on peut tout à fait négocier. Le prix moyen était de l'ordre de 3000 euros pour un EHPAD commercial. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce milieu-là, c'est le niveau de rentabilité très élevé de ces EHPAD commerciaux, avec des ratios qui ressemblent aux ratios des industries du luxe et en parallèle des prestations qui sont effectivement souvent médiocres. Il y a des EHPAD de qualité bien sûr, mais il y a des EHPAD qui offrent des prestations médiocres.
Beaucoup d'appels au standard. Daniel à Sévrac-le-Château. Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous téléphone donc de l'Aveyron.
Oui.
Alors, ma constatation, mais je vois que vous en avez déjà parlé, c'est qu'il y a une grande disparité de tarifs entre le moins cher au plus cher. Je pensais du simple au double, mais on vient de m'apprendre que c'était du triple ou du quadruple. Alors, ma première question, c'est qui fixe le tarif des EHPAD publics ?
On va vous répondre, on va prendre question après question. Qui fixe
après, hein.
Daniel, oui, restez avec nous. Qui fixe les tarifs des EHPAD publics ?
Alors, le tarif des EHPAD publics est fixé par les instances de l'État, que sont l'ARS et le Conseil départemental. Ce sont des tarifs qui, en général, sont inférieurs à 1000 euros pour les places publiques. Mais de toute façon, tout ça, dans un EHPAD public, vous avez par définition droit à l'aide sociale. Donc si vous n'avez pas le moyen de payer, de toute façon, l'État se substitue à vous. Pour ce qui est des EHPAD privés commerciaux, c'est très différent. Vous avez une partie le tarif est scindé en deux. Vous avez un tarif dépendance. Ce tarif dépendance est fixé par le conseil départemental. Et vous avez un tarif hébergement. L'hébergement, c'est la nourriture, c'est la qualité de la chambre, la taille, etc. Ce qui fait les différences de tarifs dont parlait Monsieur Pommier, c'est en général le loyer, l'endroit où se situe l'EHPAD, s'il est en plein cœur de Paris ou s'il est dans les Cévennes, et c'est effectivement la qualité de ce qu'on appelle les prestations hôtelières. Mais pour moi, le vrai luxe, ça n'est pas la couleur des papiers peints et la qualité des meubles, et c'est le nombre de soignants par résident.
Daniel, deuxième question.
Alors la deuxième question, j'ai bien entendu la réponse, donc je peux en discuter, mais pas tout de suite. Existe-t-il une corrélation entre le prix et la qualité du service rendu, et qui contrôle cette corrélation ? Est-ce qu'il y a un organisme indépendant qui contrôle cette corrélation ?
Très bien, Daniel. On va vous répondre, Jean Arcelin, sur ce point.
Il n'y a aucun contrôle de la qualité, si vous voulez, du lien, comme dit monsieur, entre le prix demandé et la qualité des prestations. Aucun. Ce sont des prix libres. Voilà. Les prix, le tarif hébergement, les EHPAD privés sont tout à fait libres de fixer le prix qu'ils souhaitent. Et c'est justement pour ça, c'est une des solutions que je propose. Il doit y avoir beaucoup plus de transparence. C'est-à-dire sur ces brochures commerciales qui sont souvent très flatteuses et parfois trompeuses, on doit connaître exactement le budget qui est dépensé chaque jour pour l'alimentation. On doit connaître les prestations, on doit connaître le détail de l'animation. On doit connaître justement on doit expliquer ce tarif hébergement.
Alors, supposons, j'ai un parent qui doit aller en EHPAD. Je cherche un EHPAD. Quels sont les signes? Qu'est-ce que je dois repérer d'abord si je visite plusieurs EHPAD pour choisir le bon? Qu'est-ce qui m'annonce que l'établissement est sérieux, que mon parent sera bien traité? On a beaucoup de questions à ce propos très pratiques. Quels sont les signes qu'on peut voir qui montrent que c'est un EHPAD crédible?
Est-ce que ça sent bon dans les couloirs?
Frédéric Pommier, oui. Mais
c'est une des premières choses. Ouais. Est-ce que l'odeur est supportable dans l'établissement? Si c'est une odeur infecte, on peut se dire que cet établissement est mal tenu. Si c'est un établissement où ça sent bon dans les couloirs, c'est déjà un point très important.
C'est très juste.
C'est Jean très Arcelin. Juste.
Alors, il y a un premier conseil, là j'insiste beaucoup là-dessus, parce que les familles sont souvent en détresse, en urgence, elles veulent placer un parent très vite, et elles sont dans une situation, elles sont vulnérables elles-mêmes. Elles vont sur Internet, elles tapent EHPAD, et là elles ne tombent pas sur des sites d'EHPAD, elles tombent sur des sociétés intermédiaires de placement, ou sur des sociétés qui vous proposent d'investir dans les EHPAD. Il y a un seul site sur lequel il faut aller.
Il faut fuir ces intermédiaires,
parce que ce sont des sociétés qui se font rémunérer à partir du moment où elles ont récupéré vos coordonnées. Il ne faut surtout pas laisser vos coordonnées sur des sites qui ne sont pas les sites des EHPAD eux-mêmes. Il y a un seul site qui est intéressant, il faut absolument le noter, c'est pourlespersonnesagees.gouv. C'est un site détail, il est formidable. Vous avez toutes les disponibilités des EHPAD, vous avez les tarifs et vous avez surtout toutes les aides, par exemple l'aide à l'aide sociale, toutes les questions que se posait cet auditeur. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, pour savoir si un EHPAD est de qualité, Monsieur Pommier a tout à fait raison, c'est très simple. L'odeur, bien sûr, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a des protections urinaires suffisantes et surtout, ça veut dire qu'il y a des mains pour changer les résidents. Après, il faut manger, il faut goûter ce que mangent les résidents. Après, il faut faire plusieurs visites le matin pendant les toilettes, le soir au moment du coucher qui sont des moments plus difficiles. Après, il faut discuter avec les équipes parce qu'elles vous parlent très facilement dans les couloirs et il faut discuter avec les familles. Et une fois que vous avez repéré un EHPAD qui vous plaît, vous essayez de voir sur Internet s'il y a des forums d'avis.
Au standard, Daniel E. qui se trouve à Paris, si je lis bien mon ordinateur. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Vous patientez depuis un bon moment, presque un quart d'heure. Alors allez-y.
Je vous en prie, mais ce que je voulais dire en fait a déjà été évoqué. Ma mère âgée vivant seule a été atteinte brutalement en fait d'une maladie neurodégénérative qui a nécessité son placement dans un établissement, et dans notre situation de détresse, nous avons eu la chance entre guillemets de pouvoir la faire admettre dans une unité de soins de longue durée d'un établissement public où elle bénéficie de soins appropriés par un personnel qui est dévoué et professionnel, et de la présence aussi, et je souligne ceci, de nombreux bénévoles qui sont aussi des personnes qui se mobilisent dans les EHPAD. Mais ce dont je veux m'étonner, parce que c'est le problème qu'ont rencontré beaucoup de familles que je connais, c'est le nombre quand même croissant d'établissements à but lucratif qui ont fait de la dépendance et de la vieillesse et de la maladie de nos parents à marché avec des actionnaires et des marges bénéficiaires qui montent à 15%, et donc évidemment il en ressort des coûts inabordables pour les familles. Je trouve que la question de la vieillesse de nos parents ne devrait pas être un objet de marchandisation.
Merci juste d'avoir témoigné, Daniel, sur ce point. Jean Arcelin, vous évoquez dans votre livre cette véritable course à la rentabilité dans les EHPAD. Et vous avez dû subir cela lorsque vous dirigiez un EHPAD.
Oui, moi, quand je suis arrivé moi, j'ai fait ça pour des raisons humanitaires. Et j'étais totalement... J'ai découvert avec stupéfaction ce cocktail délétère que forme la cupidité. la nécessité impérative de rentabilité et la plus grande vulnérabilité humaine. Parce qu'il faut savoir, votre grand-mère, Monsieur Pommier, avait la chance de vous avoir. Mais il y a beaucoup de grand-mères qui n'ont pas cette chance-là. Et on a 2/3 de nos résidents qui n'ont pas ou peu de visites et qui sont tout à fait vulnérables. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il faut savoir que le chiffre d'affaires de tous les EHPAD en France, y compris les EHPAD privés commerciaux, est subventionné pour 35% par l'État. Alors moi, l'État n'a pas d'argent pour ouvrir d'autres EHPAD, donc je trouve que les bénéfices qui sont très élevés de ces EHPAD commerciaux, le tiers de ces bénéfices devraient revenir directement à l'État.
Le téléphone sonne, le standard. Julie est avec nous maintenant. Bonsoir Julie, c'est
oui,
à vous.
Bonsoir.
Julie en Loire-Atlantique.
Exactement. Bonsoir France Inter, merci déjà de prendre mon appel et merci aussi pour la qualité de vos émissions.
Merci.
Moi je voulais témoigner parce que je me sens concernée par tout ce que vous racontez. Je suis directrice d'EHPAD dans un établissement public depuis une dizaine d'années. Je trouve qu'il y a certes des points d'amélioration importants dans les EHPAD d'aujourd'hui, et ça passe, comme votre invité le disait, non pas par la qualité des papiers peints, mais par l'encadrement dans les EHPAD qui est largement insuffisant. Mais je trouve aussi qu'il y a d'excellentes initiatives qui sont proposées par les équipes soignantes, par les équipes d'animation. Il y a des professionnels de grande qualité, des infirmiers, des aides-soignants qui adorent leur métier, qui oui. adorent la prise en charge de la personne âgée. Et malheureusement, les émissions de grandes, enfin, je pense aux émissions de télé de ces derniers mois, montrent qu'il y a en EHPAD, faire un amalgame entre les EHPAD et la maltraitance, alors même qu'il y a des choses très positives et d'excellente qualité qui se passent. Mais là où il faut pas se tromper de cible, c'est pas le directeur d'EHPAD qui est la cible de ce qui se passe et des cas de maltraitance éventuels qui peut se passer dans sa structure, parce qu'évidemment qu'il y en a et qu'on peut pas on peut pas contrôler tous les faits et gestes de chaque soignant lorsqu'il est dans une chambre. Mais là où on se trompe de cible, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que moi, je fais avec les moyens qu'on me donne. Je suis pas une magicienne. Et quand j'ai plus de sous pour pouvoir recruter du personnel supplémentaire, eh ben, je n'ai pas d'autre solution que de mettre en place la mutualisation, la rationalisation des moyens. Et malheureusement, ça fait pas partie de mes valeurs et de mes idéaux, mais c'est malheureusement la réalité de tout directeur d'EHPAD public d'aujourd'hui.
Frédéric Pommier, vous avez entendu ce témoignage en direct de Julie, directrice d'EHPAD.
Mais je pense que le postulat, il est que dans la majorité des établissements, ça se passe bien. Et donc, effectivement, il faut le redire. Le postulat, c'est que la majorité des directeurs sont de bons directeurs, que la majorité des soignants sont d'excellents soignants. Cela étant, dans trop d'établissements, ça se passe pas aussi bien que dans les autres. Et c'est d'autant plus insupportable que si dans la majorité des établissements ça se passe bien, tous les établissements devraient fonctionner correctement. Donc oui, je comprends que ce soit casse-pied pour un directeur d'EHPAD d'entendre des choses négatives régulièrement, parce que les émissions c'était des émissions de télé que vous évoquiez, elles sont là pour montrer avant tout ce qui dysfonctionne. Mais c'est pas parce qu'on va raconter ce qui dysfonctionne ça et là que ça va jeter le discrédit sur tous les établissements ou sur tous les soignants. Ce qui dysfonctionne, c'est insupportable. Et donc, il faut continuer à le raconter. Et c'est assez courageux quand ce sont des soignants qui le racontent, parce que souvent, ils risquent leur poste quand ils racontent. C'est pas facile pour les familles de raconter quand ça se passe pas bien. Les familles, elles culpabilisent déjà de confier leurs parents à une institution. Et quand elles se rendent compte que l'institution dysfonctionne, à la culpabilité s'ajoute la honte. C'est pas facile d'en parler. C'est pas facile d'en parler après la durée de vie en EHPAD, c'est 18 mois, 2 ans. Quand le parent décède, souvent les enfants n'ont plus envie d'en parler tellement c'était douloureux. Donc, je comprends que ça puisse être agaçant pour un directeur d'EHPAD d'entendre des reportages qui dénoncent les dysfonctionnements. Mais je pense que c'est le moment de tout dire. Et que c'est ça qui va permettre de faire que ça change et que ça se passe bien un peu partout. C'est le moment de tout dire. Il faut continuer à libérer la parole. Oui, dans les établissements où ça se passe mal, que les soignants, ils aient le droit de dire quand ça dysfonctionne, que les directeurs, ils aient le droit aussi de dire quand ça dysfonctionne, et que les familles, elles aient pas peur comme elles ont trop souvent peur quand on leur dit, si vous n'êtes pas content, votre papa, votre maman, vous le prenez chez vous, vous le changez d'établissement quand il n'y a pas de place ailleurs. Ça veut dire qu'on choisit de se taire la plupart du temps.
Jean Arcelin.
une directrice d'EHPAD qui a témoigné, qui dit il ne faut pas généraliser, il y a bien sûr des dysfonctionnements.
Elle a tout à fait raison. De toute façon, je le dis dans le livre, je nuance ce livre, je mets en avant ce qui dysfonctionne et je mets en avant ce qui va très bien. Moi, j'ai vécu des souvenirs absolument merveilleux et on vit des choses magnifiques en EHPAD, mais aussi on vit le pire. Sur les dysfonctionnements, dans le Parisien, il y avait quand même un sondage, une enquête réalisée auprès des familles. 43% des familles qui ont un parent en EHPAD ne mettent pas la moyenne à l'EHPAD dans lequel se trouvent leurs parents. Ce matin, je participais à une émission. 83% des auditeurs sur Facebook ne faisaient pas confiance aux EHPAD. Donc, il y a bien un problème. C'est vrai, et je tiens à rendre hommage. Moi, je dirais que 95% des soignants sont des gens formidables. J'ai assisté à des scènes magnifiques d'entraide et de solidarité. Mais il y a, je peux parler que pour les EHPAD commerciaux, des dysfonctionnements qui sont, selon moi, assez graves et qui sont liés à un impératif de rentabilité. Et vous avez tout à fait raison. Je pense que moi, j'étais pro-business. J'ai fait du business pendant une grande partie de ma carrière. Mais le business libéral, pour moi, a, comme l'a dit cette dame, a une limite. C'est le soin de personnes âgées vulnérables.
Mais alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a des soignants qui font un métier extraordinaire, qui veulent bien le faire. Mais si ces soignants ne sont pas assez nombreux, s'ils doivent s'occuper de trop de personnes âgées dépendantes, c'est là que les problèmes peuvent commencer.
C'est là que peut commencer la maltraitance.
Voilà.
Quand le personnel est lui-même maltraité.
Voilà.
Effectivement, ils sont pas assez nombreux, ils sont pas assez rémunérés, ils sont pas assez reconnus, ils sont pas assez valorisés. Ce sont des métiers extrêmement précieux. Moi, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. J'aurais jamais cette patience-là. Il faut être dévoué pour s'occuper de personnes âgées, de personnes dépendantes, de personnes grabataires, de personnes parfois irascibles, de personnes qui perdent la tête. C'est un métier éreintant. Ils sont pas assez nombreux, ils sont pas assez payés, et tant qu'on choisira pas de les rémunérer mieux et de les embaucher davantage, des formations d'aides-soignants continueront à fermer, ce qui est le cas actuellement. Il faut revaloriser ce métier-là et ça participera de la bien-traitance générale.
Julie est toujours en ligne avec nous, directrice d'EHPAD. Vous vouliez intervenir quelques secondes?
Oui, je voulais intervenir. Juste pour dire qu'il y a effectivement je rejoins parfaitement ce que vous dites. Les soignants ne sont pas suffisamment valorisés. Dans les promos aujourd'hui d'infirmières et d'aides-soignants, il n'y a plus personne. Plus personne ne veut exercer ce métier parce que déjà c'est des métiers soignants, donc ça veut dire qu'on est susceptible de travailler la nuit, on est susceptible de travailler les week-ends, éloigné de ses proches, parce que c'est épuisant de s'occuper de 15 résidents totalement dépendants en faisant des toilettes de personnes âgées totalement dépendantes. C'est épuisant. Au bout de 5-6 ans, les soignantes, elles en peuvent plus. Elles ont le dos qui est cassé, elles ne savent plus. Elles n'ont pas de projet professionnel pour les 20, 25 ou même 30 ans d'années qui les attendent devant elles. Et je crois qu'il y a un vrai travail sur la valorisation des métiers soignants qui est à faire, et particulièrement les métiers de la gériatrie, parce que la gériatrie, c'est un secteur qui est absolument pas attractif, malheureusement.
Julie vient de dire un soignant pour s'occuper de 15 personnes.
Oui, mais ça, c'est
pas possible.
C'est un ratio qui est pas acceptable. Le seul ratio qui est acceptable, à peu près, on dit, c'est un soignant pour 10 résidents. Mais il se trouve qu'il est rarement observé et qu'en plus vous avez des effectifs théoriques, mais comme cette ex-collègue le sait très bien, on a souvent de l'absentéisme sauvage, donc on se retrouve en sous-effectif. Ce que je dirais, il est important de pas dresser un tableau trop noir des EHPAD, parce qu'il faut attirer des personnes dans les EHPAD, il faut attirer des bénévoles et il faut attirer des soignants. Cette dame a raison, c'est vrai qu'on manque de soignants. Il faut...
Quel est le salaire moyen d'un soignant en EHPAD?
Une aide-soignante diplômée d'État peut, avec, alors, heures sup, vous savez, vous avez des jours travaillés, des jours fériés, etc. Et vous avez beaucoup de femmes qui cumulent les emplois, mais une aide-soignante peut gagner net entre 1400 et 1900, même 2000 euros net par mois. Ce qui n'est pas négligeable, mais c'est vrai que c'est un métier pénible, mais c'est un métier aussi magnifique. C'est-à-dire que c'est un métier qui peut être difficile, mais c'est un métier qui offre. Moi, j'ai vu des aides-soignantes qui étaient absolument très épanouies, parce que c'est un métier qui offre un sentiment d'utilité formidable. Quand vous rendez à une personne âgée le sourire, c'est vraiment un or qui brille longtemps en vous.
Suzanne, vous avez parlé avec votre grand-mère, Frédéric Pommier, avec Suzanne, de cette maltraitance qu'elle a vécue. Qu'est-ce qu'elle vous disait sur ces soignants qui lui ont imposé souvent des situations épouvantables que vous racontez dans ce livre.
Il y en a qui étaient très sympas également dans cet établissement où elle a passé 9 mois. Elle, il y avait différentes choses qu'elle trouvait insupportables. Il y a effectivement quelques soignants qui lui parlaient de façon un peu brutale, pour le dire de façon gentille, un peu trop brutale en tout cas. Mais à la limite, ça, elle le mettait sur le compte des heures trop nombreuses et de la fatigue. Elle, ce qu'elle trouvait plus insupportable encore, c'était la qualité de la nourriture.
Oui.
Enfin, la qualité. Elle disait, je ne sais pas si c'est de la viande ou du poisson ce que j'ai dans mon assiette. Elle disait, même pendant la guerre, ce que je mangeais était meilleur. Ça, elle trouvait ça insupportable. Elle trouvait insupportable également qu'on ne lui fasse que des toilettes légères. Une seule douche par semaine, dans certains établissements, c'est une seule douche par mois. Certains directeurs d'EHPAD disent oui, mais à cet âge-là, ils ont moins l'habitude de se laver. Cette génération, ils se lavaient moins. Bon, bah oui, enfin, ils se lavaient quand même. Et puis, oui, elle supportait pas l'infantilisation, qu'on l'appelle petite mamie. Mmh. Elle dit, je suis pas leur petite mamie. Elle supportait pas l'infantilisation. Elle supportait pas les humiliations. Qu'on la presse, ce qui est très étrange, c'est que dans ces établissements-là, la plupart des soignants sont pressés, oui, ils doivent faire du rendement, et face à eux, ils sont des personnes qui ont du mal à se mouvoir et qui ne peuvent pas se presser. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. En tout cas, les rythmes des personnes qui accompagnent ne collent pas toujours avec le rythme des personnes qui vivent dans l'établissement.
Nathalie patiente depuis quasiment 13 minutes. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir. Alors, je ne suis jamais impatiente, surtout pour France Inter, parce que c'est ma radio préférée.
Merci.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je me permets d'intervenir grâce à vous en tant que cadre de santé faisant fonction depuis 2008. Sauf que cet été, j'ai décidé définitivement de quitter les soins que je prodigue depuis 30 ans en tant qu'infirmière et cadre de santé. Pourquoi ? Parce que j'ai été cadre de santé faisant fonction en 2008 dans un EHPAD public où il y avait encore la possibilité de prendre le personnel et les résidents dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que tout était fait il y a encore 10 ans pour que ça puisse fonctionner de façon normale. En 10 ans de temps, je me suis retrouvée en EHPAD privé cet été, avec des prises en charge catastrophiques, surtout au mois de juillet, avec effectivement le personnel fixe en vacances, et donc des remplaçants qui ne sont pas forcément formés, des résidents et des familles qui payent plus de 3000 euros pour des prises en charge que je trouve très chaotiques. Je vais avoir 55 ans, excusez-moi, je suis émue aussi, mais je me suis regardée un matin dans la glace et je me suis dit « je ne peux plus cautionner ça ». C'est plus possible.
Je ne peux plus participer. Et quand vous dites, quand vous dites des prises en charge chaotiques, donnez-nous des exemples. Alors, c'est quoi, par exemple?
Alors chaotique. Alors, je vais vous donner un exemple plus que chaotique et même, grave, hein, ce qui m'a fait prendre cette décision. C'est que je passe, moi, tous les matins auprès de l'équipe pour saluer tout le monde, que ce soit en cuisine aussi, dans les étages au niveau des soins, en lingerie, s'il y a du monde en lingerie. Je trouve que c'est normal déjà d'aller saluer toutes les personnes qui sont présentes à l'EHPAD et tous les résidents. Donc moi, quand je travaille comme cadre de santé, je vais saluer toutes les personnes. Sauf que j'arrive à 8h30 le matin, des petits déjeuners sont déposés sur des plateaux avec des personnes, et il fait très chaud, c'est la canicule. Les personnes résidentes ont besoin d'être installées. Ça se fait avec des jeunes qui sont en remplacement l'été, qui posent le plateau, qui laissent la personne ainsi, qui ne peut plus parler. Et je passe à 11h, il y a toujours un plateau rempli de jus d'orange, de tartines qui n'ont pas été données. Et là, je me dis, c'est plus possible. Cette dame meurt 2 jours après. Et je me dis, ce n'est plus possible.
Nathalie,
je ne veux pas cautionner ça.
Merci d'avoir témoigné au cours de cette émission, Jean Arcelin, lorsque Nathalie évoque d'un personnel remplaçant qui est là pour donc remplacer les titulaires qui sont en vacances et un personnel qui manifestement n'est pas à la hauteur de sa tâche. C'est courant, ça ?
C'est très courant. On appelle ça, en fait, actuellement, au jour où je vous parle, l'EHPAD que je gérais, le dernier EHPAD que j'ai géré, et moi aussi j'ai jeté l'éponge parce que je ne souhaitais plus cautionner ça. Je n'avais pas les moyens d'assurer, selon moi, une qualité de prise en charge de mes résidents. Eh bien, il y a à ce jour un quart des effectifs de soignants qui sont ce qu'on appelle des faisants fonction, c'est-à-dire, ça peut être vous et moi, c'est-à-dire que sans formation médicale, parce qu'on est en manque de personnel qualifié.
Mais alors, si on veut, là on a de nombreux témoignages, on va aller au standard dans quelques secondes. Jean Arcelin, si on veut se sortir de cette situation, ne plus voir ce genre de scène, ce qu'on peut lire dans le livre de Frédéric Pommier, comment faire? Il faut que le gouvernement mette plus d'argent, tout simplement?
Alors, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire qu'à la fin de mon livre, j'ai, en dehors du récit, de toutes ces histoires qui sont à la fois, je le répète, magnifiques, parce qu'il y a des histoires d'amour en EHPAD, il se passe des choses absolument lumineuses et j'ai été ébloui par tout ça. Il se passe des choses aussi terribles qui, moi, m'ont fait arrêter. À la fin du livre, je tenais à proposer des solutions et surtout des conseils pour les familles. Les solutions, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont d'abord, l'État doit effectivement débloquer plus d'argent, l'État doit déverrouiller ce marché. C'est-à-dire que ce que décrit cette dame, c'est intéressant, c'est qu'en 10 ans, effectivement, la situation s'est dégradée. Pourquoi? Parce que les gens dépendants, il y en a de plus en plus chaque année et il n'y a pas le rythme d'ouverture des places d'EHPAD ne suit pas. Donc, il y a bien sûr le rôle de l'État qui doit déverrouiller ce marché. Il doit y avoir beaucoup plus de transparence donc sur les prestations qui sont livrées en EHPAD. On doit trouver des sources de financement. Je les écris dans ce livre. Et on doit susciter des vocations. Il faut vraiment... On a un chômage de masse. Il y a des gens qui peuvent se reconvertir en 9 mois. 9 mois, ça vaut vraiment la peine de s'investir pour devenir aide-soignant. Après, on peut être infirmier. Et je le répète, ce sont des métiers magnifiques. Et enfin, la société civile tout entière doit se mobiliser. Parce que moi, j'ai souvent été bouleversé parce que je trouvais que les personnes étaient véritablement abandonnées. 2/3 n'avaient pas de visite. Donc, on a besoin de bénévoles et on a besoin de visites.
Frédéric Pommier.
Je pense que l'un des problèmes, c'est aussi que les pouvoirs publics n'ont pas anticipé le fait qu'on vit de plus en plus longtemps. Pour la première fois depuis le début de l'humanité, nous vivons aujourd'hui sur 5 générations. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Ça veut dire que les résidents des EHPAD, ils ont entre 90 et 95 ans. Leurs enfants, ils ont autour de 70 ans. À 70 ans, on prend plus difficilement son parent chez soi, par exemple. Cet allongement de la durée de la vie n'a pas été anticipé. Le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir éventuellement connaître la dépendance, ceci n'a pas été anticipé. Le fait qu'un lycéen sur deux aujourd'hui en France devrait être centenaire, ceci n'a pas été anticipé. Après, moi, ce qui m'est apparu dans tous les courriers que j'ai pu recevoir après avoir raconté l'histoire de Suzanne, c'était que dans ces établissements-là, c'était essentiellement des femmes. Les résidents sont avant tout des résidentes, les soignants sont avant tout des soignantes, et ce sont avant tout les filles qui accompagnent leurs parents vieillissants. Et quand ça dysfonctionne, ce sont des souffrances avant tout féminines. Et je m'interroge pour savoir si on n'est pas non plus face à une forme de discrimination féminine. Est-ce que si les résidents étaient majoritairement des hommes, si les soignants étaient majoritairement des hommes, si c'était avant tout les fils qui accompagnaient leurs parents vieillissants, est-ce qu'on aurait laissé cette situation se dégrader comme ça? Je n'en suis pas sûr.
Juliette nous a envoyé un mail, je vous le lis. Ma tante est accueillie dans un EHPAD formidable dans les Alpes de Haute-Provence, à la Bréole, ça existe. Elle participe à des activités manuelles, des sorties, des animations, des promenades. Les repas sont bons et le personnel accompagnant est agréable et compétent. Bravo.
Ça, c'est super.
Et merci à eux.
Ça, c'est
voilà.
Super. Ça existe.
Ça existe.
Mais c'est pour ça que
absolument.
C'est insupportable que dans trop d'endroits, ça se passe pas bien. Oui, c'est possible de faire bien. Et c'est même possible parfois de faire bien avec autant de personnel. Il y a quelques structures qui fonctionnent très bien. Je pense au label Humanitude, qui est un label qui permet de vérifier la formation, de reprendre la formation de l'ensemble du personnel d'un établissement, du directeur au jardinier, oui. En passant par tous les soignants. Ça coûte un peu cher, c'est un vrai choix de financement, mais ça veut dire que tout le monde est formé à la bientraitance, que dans ces établissements-là, il y a moins de médicaments, que dans ces établissements-là, il y a moins d'arrêts de travail aussi, des soignants, parce que tout le monde vit les choses un peu mieux.
Martine Attier, bonsoir Martine.
Bonsoir, alors voilà ma question. Trouvez-vous normal qu'une salariée, les aides-soignantes dans les EHPAD, travaille 12 heures par jour, un jour sur deux, grosso modo, hein, et ne soit payée que 10 heures? Toutes ces femmes qui travaillent, qu'elles fassent 8h, 20h, 20h, 8h, ça dépend, qu'elles soient éloignées comme ça de leur famille et qu'on leur impose des horaires aussi qui permettent à ces sociétés de faire des économies en fait sur le personnel, parce que oui. On leur demande de travailler 12 heures par jour, on ne leur rémunère que 10 parce que elles ont la pause déjeuner d'une heure, la pause d'une demi-heure l'après-midi avant le goûter des résidents, et puis souvent une pause le matin, mais cette pause le matin, grosso modo, elles sont obligées de travailler et elles, souvent la pause n'est pas rémunérée. Trouvez-vous normal qu'il y ait un sous-effectif permanent dans ces EHPAD qui permet d'avoir dans les établissements moins de 50 salariés? Donc, elles ne participent pas aux bénéfices que font ces établissements qui sont des établissements financiers, etc. On l'a dit en début d'émission, c'est absolument scandaleux, vu le prix que payent les résidents. Ce sous-effectif permanent, c'est une honte. Nous trouvez-vous normal qu'on ne, les qualifications de ces personnes ne soient pas reconnues, parce qu'évidemment, la personne qui a dit qu'elle gagnait 2000 euros par mois, eh bien, je voudrais qu'elle aille le dire en face de ces personnes-là, et je voudrais savoir pour combien d'heures on gagne 2000 euros, hein, quand on est aide-soignante.
On a bien compris, Martine, on a bien compris votre témoignage, Jean Arcelin.
Alors, 2000 euros net, je l'ai vu, hein, puisque je faisais les feuilles de paye. Ce sont des aides-soignantes qui ont une ancienneté importante, de l'ordre de 25 ou 30 ans, et qui font des heures supplémentaires. Pour répondre à la question de cette dame, c'est vrai que les aides-soignantes travaillent en roulement, et souvent ce sont elles qui choisissent de travailler 11 heures par jour, parce que elles travaillent 3 jours et elles ont 2 jours de repos. En fait, c'est un roulement qui leur convient. Et quand on veut les faire travailler en 7 heures ou 8 heures, souvent ce sont les aides-soignantes qui sont demandeuses. Là où cette dame a totalement raison, normalement, toutes les heures sont payées. Et là, je dois dire que le groupe qui m'employait payait toutes les heures, y compris les heures sup.
Alors, on constate dans ce témoignage de Martine, elle évoquait les conditions de travail particulièrement difficiles. Est-ce que ça peut expliquer, parfois, l'attitude brutale, violente, scandaleuse de certains soignants qui doivent travailler des heures et des heures, qui n'en peuvent plus, qui ont trop de personnes âgées sous leur coupe? Frédéric Pommier.
Alors ça peut expliquer éventuellement, oui, ça peut expliquer, il y a beaucoup de burn-out dans ces professions-là. Ouais. Il y a plus de maladies professionnelles chez les soignants que dans le BTP. Après, ça n'excuse absolument pas. La maltraitance, rien ne peut la justifier, rien ne peut l'excuser.
Absolument. Mais vous le disiez très justement tout à l'heure, la bientraitance des résidents commence par la bientraitance du personnel.
Oui. Merci Jean Arcelin. Je rappelle ce livre chez Ixo Document. Tu verras maman, tu seras bien. Le témoignage d'un ancien directeur d'EHPAD et puis Frédéric Pommier aux éditions Équateur. Suzanne, l'histoire de votre grand-mère. Sa vie formidable, 96 ans.
Une histoire d'amour.
Très riche,
une histoire d'amour.
Mais qui a malheureusement vécu des heures difficiles en EHPAD. Merci à tous les deux.